Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue au Forum Espace Femmes que vous suivez à travers nos 52 radios partenaires partout au Niger. Aujourd'hui, notre émission s'intéresse à la question du droit à la famille pour un enfant. Comment se fait l'adoption? L'adoption est la possibilité de créer un lien juridique de filiation entre un enfant et son père ou sa mère. Au Niger, quelles sont les conditions et la procédure à suivre pour adopter un enfant? Sous quelles conditions et à qui la loi autorise une adoption? Jusqu'à quel âge est-il possible d'adopter un enfant? Est-ce que l'adoption est autorisée pour une personne de nationalité étrangère? Si oui, sous quelles conditions? Sinon, pourquoi? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir la représentante du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Madame Murjana Mereni. Bienvenue Madame Jean.
Merci.
Et nous avons aussi un parent qui a adopté, Abdrahman Moussa. Bienvenue aussi.
Merci Madame.
Et nous avons au studio aussi le directeur de l'orphelinat Le Bon Samaritain, Amad Rufani. Bienvenue à tous.
Merci.
À la présentation, Rekia Arimi. Nous commençons d'abord par expliquer en quoi consiste une adoption et du point de vue juridique, même si nous l'avons effleuré un peu dans l'introduction. Alors, quelle est la procédure à suivre au Niger pour adopter un enfant, Madame Murjanatou?
Merci Madame de nous avoir donné la parole pour nous exprimer sur tout ce qui concerne l'adoption, surtout dans notre pays, le Niger. Donc, l'adoption est une procédure légale permettant de constituer une famille à partir d'une autre forme de filiation qui est la filiation biologique. Mm-hmm. Donc, de nombreuses personnes étant dans l'incapacité d'avoir des enfants souhaitent créer une famille et sont prêtes à tout pour cela. Donc, par rapport aux conditions dans lesquelles il faut adopter un enfant, et d'abord, il faut jouir de tous ses droits civiques, ne pas avoir des antécédents judiciaires compromettants. Raison pour laquelle, d'abord, il y a le casier judiciaire fait partie du dossier. Donc, il faut être un sain d'esprit parce qu'à travers l'enquête psychologique, le médecin ou le psychologue doit délivrer un certificat et attestant que la personne candidate à l'adoption est vraiment saine d'esprit. Parce que on ne peut pas prendre un enfant pour le confier à quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit. Voilà. Donc, il faut aussi viser l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut quelqu'un qui vise vraiment l'intérêt, qui met au devant l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut disposer aussi des ressources suffisantes pour garantir la prise en charge, en tout cas sanitaire, éducative, alimentaire, vestimentaire, entre autres, de l'enfant. Et il faut aussi respecter la réglementation en vigueur au Niger et sur le plan international en matière de protection de l'enfant. Voilà.
Ok, Madame Murjanatou, je reviens vers vous, Monsieur Rufai. Et quelle est la date de la création de l'orphelinat Le Bon Samaritain?
Oui, l'orphelinat Le Bon Samaritain a été créé par l'ONG ADN Kamna, c'est par l'autorisation du ministère de la Protection en juillet 2002.
Juillet 2002. Oui. Et qui sont vos pensionnaires?
Nos pensionnaires, ce sont des enfants qui sont abandonnés, des orphelins. Ce sont des enfants vraiment qui sont dans des difficultés familiales. Ce sont des enfants dont les mères sont vraiment mineures. Ils ont des enfants dont les pères, la plupart, sont inconnus. Donc, des enfants dont les parents aussi sont incarcérés. Voici les catégories des enfants qui nous viennent souvent.
Et comment se fait la gestion des enfants à l'orphelinat Le Bon Samaritain?
Oui, donc avant de répondre à la gestion des enfants, il faut dire que les enfants sont venus à l'orphelinat par une ordonnance de juge des mineurs. Et que s'il y a un enfant, même si on nous réfère l'enfant, ou bien si la maman ou quelconque qui amène l'enfant, nous les référons toujours par le juge des mineurs. Et le juge des mineurs ordonne une enquête sociale. Il y a un sociologue au niveau du tribunal des grandes instances hors classe de Niamey. Donc après l'enquête, on nous donne une ordonnance définitive. Avant l'enquête, on nous donne une ordonnance provisoire. Les enfants sont internés, sont hébergés, nourris, soignés, scolarisés. Ils sont suivis par des femmes qui dorment sur place avec eux. Nous avons des personnels comme je suis le premier responsable là-bas, avec un secrétaire comptable, avec aussi une infirmière pour suivre les petits soins des enfants.
Mm-hmm.
Nous avons aussi des gardiens qui sont là-bas. Nous avons presque une dizaine de nounous qui sont là pour les soins des enfants.
Mm-hmm.
Il y a des cuisiniers aussi.
Mm-hmm.
Même si les plus grands participent à la gestion, mais quand même, il y a toujours un responsable qui est là pour coordonner les choses.
Mm-hmm. Depuis la création de l'orphelinat Le Bon Samaritain, à ces jours, combien d'enfants avez-vous accueillis?
Depuis la création, nous avons accueilli plus de 200 enfants.
Mm-hmm.
Maintenant, nous avons à peu près 76 enfants qui sont là, internés à l'orphelinat.
Mm-hmm.
D'autres déjà sont dans la vie active, ils sont mariés, ils sont dans la vie sociale vraiment.
Mm-hmm. Et je reviens vers vous, Monsieur Abdrahman. Bonsoir. Dites-nous, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à adopter un enfant?
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Madame, merci de l'opportunité que vous me faites de partager. De partager mon expérience.
Mm-hmm.
Ce qui m'a poussé aujourd'hui à adopter un enfant, c'est que après mon mariage avec ma femme,
mm-hmm.
et après plusieurs années, on n'a pas eu d'enfant.
Mm-hmm.
Et on a souhaité, en tout cas, agrandir la famille.
Mm-hmm.
Donc, ce qui nous a poussé à aller vers l'adoption,
mm-hmm.
après une dizaine d'années.
Avant de prendre cette décision, avez-vous demandé des conseils avec votre entourage, votre famille?
Oui, tout à fait. On a vraiment essayé d'avoir la bénédiction des parents, mm-hmm. déjà leur soumettre notre projet pour avoir leur consentement. Une fois cela fait, on s'est lancé pour le dossier, comme Agia l'a dit
mm-hmm.
au début.
Mm-hmm.
C'est un dossier qui est assez... Il y a beaucoup de requêtes
mm-hmm.
très lourdes. Très lourd, parce que quand on a pris pratiquement pour monter le dossier, ça nous a pratiquement pris un an.
Un an. Oui, oui.
Un an, avec beaucoup de des activités comme les enquêtes sociales, où on doit aller au niveau des voisins
mm-hmm.
et poser des questions sur nous-mêmes.
Oui, oui.
Voilà, ou bien au niveau du psychologue, les entretiens avec le psychologue aussi, c'était vraiment, en tout cas, assez lourd. Mais alhamdoulilah, c'était pour la bonne cause.
Oui. Madame Mourjanatou, le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, comme son nom l'indique, a la mission de protéger l'enfant dans toutes les circonstances. Mais que disent les textes en matière d'adoption au Niger?
Donc, en matière d'adoption au Niger, les textes mettent en avant l'intérêt supérieur de l'enfant.
Mm-hmm.
Et au niveau du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, en matière d'adoption, on se base sur les principaux textes protégeant les enfants et mettant en avant l'intérêt supérieur de ces derniers. Ils sont, entre autres, la Constitution du 25 novembre 2010,
mm-hmm.
la Politique nationale de la protection de l'enfant, la CEDE Convention relative aux droits de l'enfant, la 4B, la Charte du droit et du bien-être de l'enfant.
Mm-hmm.
Voilà.
Je reviens vers vous, M. Roufaï. Combien ont été adoptés dans votre structure?
Oui, les enfants qui sont adoptés, nous ne dépassons pas 6 à 7.
Mm-hmm.
Adoption depuis notre création. Parce que l'adoption étant un truc très difficile d'ailleurs,
mm-hmm.
qui stresse, qui demande beaucoup d'efforts,
oui.
comme M. Abdrahman l'a dit, un an en train de préparer les dossiers.
Préparer les dossiers, oui.
Oui, oui, c'est tout un processus.
C'est ça.
À commencer déjà par le ministère de la Protection de l'Enfant,
mm-hmm.
qui doit donner son approbation d'abord. Même pour les enfants, c'est pas n'importe quel enfant qui est adopté.
Mm-hmm.
C'est des cas vraiment qui n'ont souvent pas d'attache familiale
mm-hmm.
et qu'on doit les déclarer souvent dans la plupart des cas pupilles de l'État
mm-hmm.
pour qu'ils soient passés par les tribunaux pour qu'ils soient adoptés.
Et que devient ce qui dépasse l'âge d'adoption?
Oui, ce qui dépasse l'âge d'adoption, c'est vraiment un problème. Un problème parce que tout enfant qui ne grandit pas dans une famille normale,
mm-hmm.
c'est un problème.
Tout à fait.
Oui. La gestion n'est pas facile avec l'âge de l'adolescence et souvent même à l'âge adulte. Puisque nous avons actuellement des filles qui
mm-hmm.
sont là, qui ont l'âge adulte, disons, puisque au Niger, à partir de 16 ans, déjà mm-hmm. une fille, elle est adulte. Et quand tu as une fille à 18 ans déjà,
mm-hmm.
d'autres sont là dans les centres, ne veulent même pas quitter. Lorsque tu essayes de leur faire une insertion sociale, c'est un problème.
Mm-hmm.
Ils voient ça très mal. Et souvent, quand ils grandissent aussi, ils mènent une autre vie qui n'est pas de l'enfance du tout.
Mm-hmm.
Ils vont commencer encore à s'ingérer, puisque souvent, ils deviennent même ton patron. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, par la grâce de Dieu, nous essayons, avec le peu d'expérience que nous avons, nous essayons de vraiment de les éduquer, d'avoir une orientation et une attention particulière aux filles. Oui, que nous essayons vraiment de les placer souvent dans des foyers d'accueil. Et souvent, pendant les vacances, nous cherchons des foyers vraiment de bonne volonté, des gens qui viennent nous aider dans la gestion de cet orphelinat, à les placer, à passer des vacances. Oui, maintenant, c'est un peu au rythme. On peut, va faire les vacances, il revient, il va s'habituer à la famille un peu. Donc, l'enfant, quand il grandit, il peut avoir une référence d'une famille avec elle, il a des attaches et il peut continuer sa vie normale.
Avez-vous des difficultés pour faire adopter des enfants?
Pas du tout de difficultés, mais c'est le processus qui est long. Souvent, les parents pensent qu'un processus d'adoption, c'est prendre l'enfant tes données. Or, ce n'est pas des choses qui se passent de tic au tac. Donc, quand tu commences à citer les conditions et les processus qu'on doit, beaucoup abandonnent. La plupart abandonnent parce que vraiment, c'est, pour eux, c'est trop pour eux. Or, c'est nécessaire pour la protection de l'enfant.
C'est ça. Et je reviens vers vous, M. Abdraman. Une fois que vous avez eu votre enfant à adopter, quel changement a-t-il apporté dans votre vie?
Écoutez, pratiquement toute notre vie a changé parce que c'était que du bonheur. Ouais. Imaginez quelque chose que vous attendez depuis plus de 10 ans et après vous êtes à papa, maman, on entend des cris dans la maison. La maison qui est tout le temps silencieuse maintenant, voilà, il y a de l'harmonie, il y a la joie, il y a la famille qui vient nous faire baka et tout ça. C'était en tout cas que du bonheur.
Que du bonheur. Avant de continuer les discussions, je vous propose de suivre les témoignages de quelques femmes sur la question d'adoption des enfants. Elles nous racontent.
Je me suis occupée de 10 orphelins à l'SOS de Niamey. Tous ont réussi leurs études. Certains évoluent en France, d'autres sont en master dans des écoles à Niamey. Trois d'entre eux, des filles, se sont mariées. Les garçons continuent leurs études. Je suis fière d'être une mère pour ces enfants. Je les ai adoptés, je me suis occupée d'eux depuis tout petit. Aujourd'hui, ils me considèrent comme leur propre mère. Ils portent tous mon nom de famille. Je me suis mariée assez jeune. J'ai eu deux enfants, mais ils sont décédés. Après, j'ai divorcé de mon mari. J'ai intégré le SOS. Aujourd'hui, je me considère comme une mère parce que je suis satisfaite de mes enfants. Cette maison que j'habite, c'est grâce à eux. Ils sollicitent mon avis dans toutes leurs décisions. Je donne à chacun son plan de développement pour qu'ils puissent le suivre à la lettre. Je profite des avantages de leur adoption parce que j'ai été honorée au titre de meilleure mère avec une bague en or. J'ai eu beaucoup d'autres avantages. Je n'adopte plus maintenant parce que je suis âgée, bientôt la retraite. Parmi les 12 que j'ai adoptés, certains se sont mariés. J'ai même des petits-enfants. Dieu merci.
Mashallah, Madame Mourja, quelle lecture faites-vous de ces témoignages?
En tout cas, je suis très ravie d'écouter cette dame et battante qui a eu à faire de ses enfants des grands hommes et des grandes femmes. Et c'est vraiment une fierté.
Tout à fait.
Et que Dieu la bénisse, qu'il lui rende au centuple.
Amen.
Elle-même, elle est toute fière. Et nous avons en tout cas écouté tout ce qu'elle vient de dire. Et c'est un bon exemple à suivre.
Ouais.
Oui. Les nourrices doivent s'inspirer de l'expérience de cette dame pour montrer de quoi elles sont capables aussi. Pour faire de ses enfants et des grandes personnalités. Parce que c'est les enfants qui constituent l'avenir de demain.
Ouais.
Il ne faut pas dire parce que ce n'est pas mon propre enfant. Il n'est pas mon enfant, je ne vais pas m'occuper de lui. Non, l'enfant, même si c'est dans la bourse que tu le vois, tu as le droit et le devoir de le protéger, de le prendre en charge. Voilà, parce que tu ne sais jamais ce qui sera demain. Merci.
Monsieur Abdraman, quelle lecture faites-vous à ces témoignages?
En tout cas, comme Agia l'a dit, c'est une femme battante, plus de 12 enfants qu'elle a adoptés.
Oui.
Et qu'elle a su les faire arriver jusqu'au bout, comme on dit. On ne peut que la féliciter. Et aussi nous donner cette force de pouvoir prendre encore 12 enfants qu'on va pouvoir qu'on va accompagner, parce que c'est important, c'est des actes nobles, c'est des vies qu'on sauve, mm-hmm. et aussi on leur donne un avenir, mm-hmm. et à leur tour aussi de perpétuer la vie, c'est ça la vie,
ouais.
c'est l'entraide,
ouais. Pasteur.
C'est important.
Oui, ces genres de femmes, nous les avons au centre Bon Samaritain.
Mm-hmm.
Ils sont vraiment sans arrêt. Quand une femme prend un enfant de tout son cœur, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Oui, je pense que c'est ce qu'elle vient d'exprimer,
mm-hmm.
de tout son cœur. Et vraiment, et elle a vu ce qu'elle a fait vraiment, elle a contribué vraiment à l'avancement même de l'humanité.
Mm-hmm.
Et c'est pourquoi elle est heureuse.
Oui.
Et elle les proclame haut et fort, c'est
oui.
qu'elle
voilà.
a vu vraiment ses expériences.
Mm-hmm. Okay. Et je reviens vers vous, Madame Morjanatou. Est-ce que vous gardez toujours un œil sur ces enfants adoptés?
Oui. Et les enfants qui sont adoptés sur le plan national et sur le plan international sont suivis par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant.
Mm-hmm, mm-hmm.
Voilà. Donc... par rapport aux enfants adoptés sur le plan international,
mm-hmm.
Ils nous fournissent des rapports périodiques de suivi de ces enfants. Il y a des photos, il y a des... En tout cas, c'est un rapport complet qu'ils nous fournissent,
mm-hmm.
par rapport à chaque enfant adopté.
Mm-hmm.
La France, la Belgique, les États-Unis, le Canada. Et sur le plan national aussi, nous avons même l'habitude de nous rendre au niveau des familles adoptives,
mm-hmm.
pour visiter les enfants, pour voir dans quelles conditions ils sont, pour voir l'évolution de ces enfants, leur épanouissement, leur bien-être.
Mm-hmm.
Donc, il y a un rassemblement qui se tient chaque 2 ans des parents adoptifs en Belgique,
mm-hmm.
et ils invitent le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant.
Mm-hmm.
Et je pense que même cette année, le ministère est invité.
Mm-hmm.
Inch'Allah.
Inch'Allah.
Donc là-bas, lors de ce rassemblement, il y a les parents adoptifs et les organismes agréés d'adoption qui se regroupent, y compris leurs enfants même,
mm-hmm.
pour célébrer en tout cas l'événement. Et ils invitent le ministère et le ministère participe pour voir de visu concrètement le devenir de ces enfants. Donc vraiment, il y a le suivi.
Tout à fait.
Voilà.
Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait empêcher une adoption juridiquement?
Donc, si, parce que pour adopter un enfant, il faut d'abord constituer un dossier. Il y a toute une liste de pièces à fournir pour la constitution du dossier.
Mm-hmm.
Le dossier sera examiné et validé.
Mm-hmm.
Et les dossiers qui répondent aux critères sont sélectionnés et on attribue, le comité attribue l'enfant au couple. Et si le dossier n'est pas vraiment en règle, là, le dossier est rejeté.
Mm-hmm.
Et on fait appel au candidat à l'adoption dont le dossier n'est pas à règle,
mm-hmm.
pour lui dire, pour lui notifier ce qui manque dans le dossier. Donc, voilà en tout cas ce qui peut porter préjudice,
mm-hmm.
en tout cas au candidat à l'adoption. Si aussi, au cas où un couple adopte un enfant,
ouais.
et qu'on voit qu'il maltraite cet enfant-là, là aussi, le juge ou le président du tribunal de grande instance hors classe, parce que c'est eux qui font la plénière,
mm-hmm.
du jugement, quand le comité attribue l'enfant, c'est le tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui tient la plénière pour en tout cas prendre la dernière décision et en collaboration avec les juges des mineurs et les avocats, parce que c'est avant c'était les avocats qui servaient d'intermédiaire entre le comité et les parents adoptifs.
Mm-hmm.
Mais maintenant il y a une autorité centrale qui est mise en place tout récemment et le processus n'est pas tellement le même que celui de l'ancien comité d'adoption.
Mmh, mmh,
mmh. Voilà. Donc, s'il y a un mauvais traitement, vraiment, le juge peut revenir sur sa décision et puis on peut lui retirer l'enfant. On peut attirer l'attention. Si ça continue, vraiment, on peut retirer l'enfant.
Mmh, mmh,
oui.
Et vos propos nous montrent que l'adoption est autorisée pour une personne étrangère aussi.
Oui?
Est-ce qu'il y a une différence entre le dossier national et international?
Oui, la différence n'est pas tellement... c'est pas une grande différence,
mm-hmm.
entre les dossiers et l'adoption nationale et l'adoption internationale.
Mm-hmm.
C'est presque la même... Il y a seulement quelques 3 ou 4 pièces seulement que le candidat et à l'adoption internationale doit en tout cas augmenter pour la constitution de son dossier d'adoption.
Mm-hmm. Je reviens vers vous, mais c'est Roufaï, une fois que l'enfant a été pris en charge par une famille, est-ce qu'il vous arrive de prendre de ces nouvelles?
Oui, parce qu'on ne donne pas à n'importe quelle famille.
Ouais, ouais.
Même s'il y a des familles d'accueil, on prend des nouvelles, souvent des photos qui nous sont envoyées. Mm-hmm. Il y a des, parce qu'en constituant les dossiers, il y a les résidences, il y a tout. Mm-hmm. Les dossiers là, c'est pour mieux connaître même à l'écrit aussi la personne. Mm-hmm. Et nous, quand nous tissons en fait des relations avec les familles, c'est tout juste des relations pour ceux qu'on a connus 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans. Mm-hmm. Donc c'est des gens déjà qui nous sont familiers.
Ok. Et Monsieur Abdrahman, être mère ou père nécessite vraiment beaucoup d'attention, des présences, d'affection. Comment arrivez-vous à gérer votre enfant?
Bon, on le gère naturellement. Naturellement, puisqu'il y a déjà le plus important, c'est l'amour.
Ouais.
C'est l'amour qu'on lui donne. Dieu merci, on a de quoi subvenir à tous ses besoins. Mm-hmm. Primaires, il est à l'école, il va bien. Donc, je pense que c'est que du bonheur.
Ouais. Il a quel âge maintenant?
Il a 6 ans.
6 ans. Mm. Vous l'avez pris à l'âge de
2 mois.
2 mois. Oui. Mashallah. Avant de continuer, je vous propose de suivre le portrait de Madame Angèle Itier, mère éducatrice à l'orphelinat Le Bon Samaritain. Âgée de 58 ans, de nationalité togolaise, Madame Angèle Itier a foulé le sol nigérien dans les années 99 avec comme principale activité la vente de doukounou, un plat des pays côtiers très prisé par les Nigériens. Après plusieurs années d'activité, Madame Itier a décidé de changer de métier en 2002 pour se consacrer à la garde des enfants à l'orphelinat Le Bon Samaritain en tant que nounous. La première femme à jouer ce rôle dans cet orphelinat, Madame Etier a commencé avec 2 enfants, elle nous raconte.
Avant, je vendais doukounou. Donc, des fois, on paye, des fois, on ne paye pas. Et moi-même, j'ai dit que je vais chercher un travail à faire. Donc, voilà, le pasteur, il m'a appelé, il m'a dit que je n'ai qu'à chercher quelqu'un. À ce temps, on a amené un bébé, quoi. La femme du pasteur, elle était enceinte. Donc, elle ne peut pas garder le bébé. Donc, il m'a dit, ah, Angèle, il faut chercher quelqu'un qui va s'occuper du bébé. Et dans ma tête, j'ai dit, ah, comme moi-même, je cherche le travail, je voulais laissé avant. Donc j'ai dit à moi-même, je pouvais garder le bébé. Et dit que ok. Donc c'est ça, je suis rentrée dans le travail de l'orphelinat. Bon, j'ai commencé à garder 2 avant que les autres soient venus. Tous les enfants sont grandis devant moi. C'est pas moi seule qui garde les enfants. Il y a les autres. Mais tous les autres qu'on a commencé ensemble, tous sont partis. Les autres sont mariés, les autres sont partis. Donc je dors avec 8 enfants dans la chambre. Mais tous les enfants aussi, je les surveille.
Angèle Etier, appelée affectueusement Maman Leila, accomplit son travail avec joie et détermination. Sinon, elle l'obtient en 2005 avec l'arrivée à l'orphelinat d'une toute petite fille qui ne pèse que 700 grammes à l'époque.
Il y a un enfant que j'ai gardé, on lui appelle Leila. Donc l'enfant là, avant que mon mari était là, je ne dors pas à l'orphelinat. Donc si je suis à la maison, l'enfant est derrière moi. Si à l'orphelinat, elle est derrière moi. Donc beaucoup ne savaient pas que c'est une enfant de l'orphelinat. C'est ça, on m'appelle Maman Leila ou bien Tanti Leila. Donc tout le monde, Tanti Leila, Tanti Leila, Tanti Leila. C'est ça.
Elle était bébé en 700 grammes, on l'a trouvée à l'hôpital. C'est moi qui suis en train de lui garder. 700 grammes, même pas 1 kilo, 700 grammes petits comme ça, qu'on a amené à la maison là. J'ai fait l'eau chaude, je lui masse bien. À l'hôpital là-bas, elle ne pleurait pas. Hein. Ça, mollo, 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 jusqu'à Dieu a fait qu'elle vit maintenant. Les blancs viennent ici pour visiter les enfants. Et donc, un blanc lui a vu, il dit que ok, il va les adopter. Le blanc là lui a adopté, il l'a amené aux États-Unis. Elle a quitté ici en 2015 comme ça, à l'âge de 10 ans comme ça. Et actuellement, elle a l'âge de 18 ans.
Certes, la garde des enfants est difficile, mais la patience est la bonne solution, dit Angèle, Maman Leila.
Et les enfants, c'est les enfants. Donc, comme je suis avec jusqu'à... Les autres sont venus bébés, les autres sont venus 5 ans, 6 ans comme ça. Même quand il fait les dégâts ou bien il fait les bêtises, je suis une maman. Je ne vais pas les abandonner.
Très sollicitée par ses collaborateurs et les enfants de l'orphelinat, Maman Leila est très appréciée dans son travail.
J'apprécie beaucoup, c'est une mère qui nous a beaucoup aidés ici à l'orphelinat. Depuis, il y a certains d'entre nous qui ont grandi dans ses mains et ce n'est pas facile. Là. En tant que des enfants, elle a pris soin de nous. Elle nous donne des conseils aussi de la vie, elle nous parle de la vie. En fait, j'aime beaucoup ce qu'elle nous fait ici parce que c'est grâce à elle si on est arrivé à cette étape de la vie là où on
C'est Tante Leila qui m'a amené ici. Dieu merci, nous vivons ensemble sans problème. Même Tonton Rufai nous a bien accueillis. C'est elle qui nous a appris comment prendre soin des bébés, comment donner du lait à l'enfant. On a appris tout cela avec elle.
Chaque enfant a droit à la vie et à une famille. Voilà pourquoi il est important de bien entretenir ces orphelins et c'est notre principal engagement, conclut Madame Angèle Etier, Maman Leila.
Maman Leila, Amadou Rufai,
oui.
Parlez-nous un peu d'elle.
Oui.
Comment appréciez-vous Maman Leila?
Tante Leila, quand vous étiez à l'orphelinat pour prendre ce témoignage, je vous avais dit que c'était la première fois que vraiment des gens s'intéressent au travail. Chaque fois quand on vient, c'est les enfants qu'on regarde, les nombres des enfants, tout. Mais voici pour la première fois quelqu'un qui va s'intéresser à la vie de ces nounous, de ces braves femmes qui sont là à la charge de ces enfants. En réalité, nous sommes là pour leur chercher vraiment de quoi aller nourrir. Mais en réalité, le grand travail, ceux qui sont en contact réel avec les enfants, ce sont ces femmes-là. Nous étions vraiment dans la joie de s'intéresser à la vie de cette femme. Cette femme a un témoignage très particulier parce qu'elle était mariée, mais parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, son mari l'a chassée. Donc, c'est depuis là qu'elle a commencé à dormir à l'orphelinat avec les enfants. Mais presque tous nos enfants aujourd'hui, bébés, ils sont passés par elle. Parce que notre particularité, nous prenons plus des enfants de 0 à 5 ans. Sauf en cas d'urgence. Extrême d'urgence, on peut prendre jusqu'à 10 ans, 11 ans. Parce que tout est une question d'éducation. Donc cette dame-là, c'est vraiment le centre de l'orphelinat Les Bons Samaritains. Comme vous avez vu, elle disait une fille de 700 grammes. Je me rappelle de Leila. 700 grammes, quand vous regardez son ventre, vous voyez tout. Tout ce qu'il y a dans le ventre. On ne peut pas la prendre. Vraiment, elle était tellement petite. C'était en 2003. C'était une fille mineure à l'âge de 11 ans qu'il a accouché. Une fille de 11 ans. Je me rappelle de ça. Et cette dame-là, nous-mêmes, on a passé par semaine. Parce que le premier missionnaire qui a fondé l'orphelinat, j'étais avec lui. Donc, c'est quand il est parti dans les années 2015-2016 que je l'ai remplacé à l'orphelinat. Donc, elle fait un travail formidable. Elle est patiente. Et elle est pleine d'amour. Et c'est quoi? Après, on a vu que même ce n'était pas elle qui n'accouche pas, c'était son mari.
Oh là là.
C'était son mari, mais voilà. Lui-même, il s'est remarié, il n'a pas eu d'enfant. Et après, le dernier temps, il est revenu vers Tante Leila. Il a demandé pardon, mais c'était trop tard. Après 2 mois, il est décédé.
Allahu Akbar.
C'est ça, vraiment. Donc, c'est vraiment une femme et nous la félicitons. C'est une maman pour nous.
Monsieur Abdraman, que retenez-vous des actions de Madame Angèle?
C'est une femme en tout cas formidable parce que avoir la patience de gérer plusieurs enfants et de faire la formation encore des autres nounous, je trouve vraiment que c'est un acte noble. On ne peut que c'est salutaire, c'est vraiment que Dieu la bénisse, c'est tout ce qu'on peut dire, qu'il l'accompagne dans ses actes nobles.
Et Madame Orja, que retenez-vous des actions de Madame Angèle Etier?
Sincèrement, je dirais bravo à Tante Leila pour tout l'accompagnement qu'elle apporte aux enfants de l'orphelinat Bon Samaritain pour leur bien-être, pour leur épanouissement. Et c'est vraiment une œuvre salutaire et que Dieu l'assiste et qu'il la gratifie et qu'il la bénisse aussi. C'est des gens comme ça que vraiment nous cherchons pour ces enfants en situation de vulnérabilité. Ils ont tant besoin d'amour, d'affection. Et elle est à saluer aussi.
Et Madame Mourja, est-ce qu'on peut renoncer à l'adoption après avoir accueilli l'enfant?
En tout cas, jusque-là, nous avons, c'est une seule fois que nous avons rencontré ce cas.
Mm-hmm.
Parce que on a attribué, après étude des dossiers,
mm-hmm.
par le comité
mm-hmm.
d'adoption, donc on a attribué l'enfant au couple. Et il y a un enfant qui souffre de drépanocytose
mm-hmm.
qui a été attribué à un couple étranger. Et quand ils ont su que l'enfant est...
Drépanocytose.
Voilà, ils n'ont pas voulu...
Garder l'enfant.
Non, ils ne sont même pas venus d'abord chercher l'enfant.
Okay,
c'est juste qu'on leur a annoncé,
mm-hmm, mm-hmm.
leur avocat leur a annoncé. Mais ils ont dit vraiment qu'ils ne peuvent pas...
Assumer. Oui. Oui.
Donc, ils veulent assez qu'on leur change d'enfant. Mais nous nous sommes dit que si on refuse d'adopter les enfants
malades,
et les enfants malades, oui. comment ils vont faire? Si tout le monde dit que c'est les enfants, c'est bien portant seulement qu'ils vont adopter. Et c'est surtout ces enfants, tous ces enfants-là, qu'ils soient des bien portants ou malades. Ils ont tous besoin d'affection, d'amour.
Mm-hmm.
Chaque enfant a besoin des parents, d'un papa et d'une maman.
Mm-hmm.
Parce que nous, notre objectif, c'est que chaque enfant ait un père et une mère. Mais pas que chaque famille ait un enfant.
Mm-hmm.
Oui, c'est ça notre objectif.
Mm-hmm.
Mais l'enfant, qu'il y ait un père et une mère qui vont le prendre en charge, lui donner l'amour, l'affection dont il a besoin pour son bien-être, pour son épanouissement.
Mm-hmm. Et
je peux ajouter.
Oui, oui.
C'est ce qu'elle a dit avec Leila.
Mm-hmm.
Elle était drépanocytaire aussi. Mm-hmm. C'était très malade à mm-hmm. cause de son poids.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et c'est pourquoi la famille a voulu l'avoir pour mieux la soigner.
Pour la prendre en charge.
Voilà. Oui. Donc, je pense que quand il y a un handicap, ça ne doit pas
empêcher l'adoption.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Mm-hmm. Voilà, c'est ça.
Oui.
Est-ce que vous avez une fois eu ces genres de cas, le fait qu'on vous ramène l'enfant adopté?
Bon, nous, on n'a jamais eu ces cas. Puisque c'était mon prédécesseur qui a fait beaucoup, on n'a jamais eu quand même ces cas
mm-hmm.
où l'enfant est ramené ou quelque chose,
mm-hmm.
où l'enfant est ramené, donc on n'a jamais eu quand même ces cas.
Mm-hmm.
Oui, oui. La plupart de ces adoptions souvent visent souvent à donner un enfant qui a surtout un handicap,
mm-hmm.
que peut-être le centre ne peut pas supporter. Et si la famille peut le supporter
mm-hmm.
davantage, comme le cas de Leila.
Leila, oui.
Oui, oui. Donc, c'est ça.
Mm-hmm.
Oui. D'autres aussi sont partis par des raisons d'études.
Ouais.
Oui. Actuellement, nous avons un au Canada qui étudie, qui est parti pour des raisons d'études.
Mm-hmm.
D'autres aussi, même qui se préparent même voir partir aux États-Unis pour des études.
Mm-hmm.
Oui, oui. Donc, d'autres sont partis au Sénégal, ils sont revenus pour des raisons des études aussi.
Mm-hmm.
Oui.
Et M. Abdraman, est-ce que vous avez un dernier mot à lancer à l'endroit des parents?
Oui, oui, j'ai un dernier mot. Mon dernier mot, en fait, je veux vous faire une anecdote. Quand j'ai lancé le processus d'adoption,
mm-hmm.
j'étais allé au niveau de l'avocat et l'avocat était surpris de voir un Nigérien en train d'adopter. Il dit, lui, c'est son premier cas.
Mm-hmm.
C'est son premier cas et il était tellement content.
Content.
Il était tellement content, il m'a dispensé de ses honoraires.
Inch'Allah.
Tous ces honoraires, il a dit que il me fait
cadeau.
Voilà, il me fait cadeau.
Oui.
Il y a eu juste les frais de dossier de l'adoption seulement que j'ai payé.
Mm-hmm.
Donc juste pour dire que jusqu'à présent, je pense que la société, on n'est pas encore mature pour le faire. Les gens pensent que c'est pas possible. On pense que, mais sinon vraiment c'est possible. On mm-hmm. peut adopter un enfant et en tout cas donner tout l'amour qu'on a à cet enfant-là.
Mm-hmm.
Et en tout cas, moi je peux que rendre grâce à Dieu puisque quand j'ai adopté l'enfant,
mm-hmm.
il y a que du bonheur qui arrivait.
C'est-à-dire,
on a eu madame et moi tous des promotions
wow.
au bureau.
Mm-hmm.
Et en tout cas, il n'y a que du bien.
Ouais.
Donc, alhamdoulilah, comme on dit.
Mashallah, Madame Mourja, avez-vous un dernier mot à lancer à l'endroit des familles ou
Donc, et avant de lancer un appel à l'endroit de toute la population d'ailleurs,
population.
Je tiens à préciser que depuis la ratification de la Convention de La Haye par le Niger le 6 juillet 2018, les procédures d'adoption sont en train d'être changées pour se conformer aux dispositions internationales. Donc le processus de mise en place des organes et internes et afférents est en cours. Il va avoir vraiment un changement. Et vous savez que seul l'État est habilité à donner les enfants en adoption. Et maintenant, l'adoption ici sur le plan national, sincèrement, elle est timide. Et je me rappelle bien qu'une fois nous étions partis à l'Assemblée avec notre ministre et ses cadres et pour plaider par rapport à certaines lois qui concernent les enfants en situation de vulnérabilité. Et ça a passé et les députés ont même voulu demander l'autorisation de venir visiter le centre d'accueil des enfants en difficulté familiale qui était en ces temps juste derrière la maternité Gazobi. Et je vous dis que lors de la visite, et beaucoup d'entre eux n'ont pas pu retenir leurs larmes quand ils sont venus visiter les enfants. Parce que c'est des enfants qui ont vraiment besoin d'amour, d'affection. Des enfants qui n'ont pas demandé à être nés. Donc, sincèrement, si ici au Niger, si vraiment on peut trouver des gens capables d'adopter ces enfants-là, ça serait une bonne initiative, ça serait une bonne chose, une bonne initiative salutaire. Les enfants sont là au niveau des orphelinats. Ils sont là, c'est des enfants qui n'ont ni père ni mère, qui ont besoin d'amour, d'affection. Ils veulent seulement avoir des parents qui vont leur fournir, en tout cas leur procurer cet amour, cette affection pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent vraiment être bien dans leur peau. Donc, nous lançons un cri de cœur à l'endroit des Nigériens, de toute la communauté, vraiment de songer à adopter ces enfants-là, parce que c'est une œuvre salutaire. Et seul le bon Dieu va vous récompenser si vous vous prenez en charge un orphelin. Et ça, c'est le hadith même qui le dit. Nous pensons que les gens vont en tout cas écouter, parce que là, je vous ai dit que l'adoption nationale, elle est timide. C'est de l'étranger, c'est l'adoption internationale qui est vraiment... Les gens, ça vient en flux, les demandes internationales. Nous avons beaucoup de dossiers internationaux. Sur le plan international, il y a beaucoup de dossiers qui nous viennent. Et sur le plan national, c'est timide. Mais quand même, les Nigériens ont commencé à adopter. Nous avons quelques dossiers des Nigériens. Et seul l'État, maintenant, c'est seule l'autorité centrale qui va s'occuper de l'adoption. Les structures privés n'ont pas le droit de donner les enfants en adoption. Quelle que soit l'adoption, maintenant, c'est l'autorité centrale qui va s'en occuper. C'est en tout cas, selon la convention de la Haye que le Niger a ratifiée. Nous devons respecter toutes les clauses. Voilà.
Et nous sommes au terme du forum Espace Femmes de ce soir qui s'est intéressé sur le thème « Le droit à la famille pour un enfant, comment s'est fait l'adoption ?» Nous étions en compagnie de la représentante du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Madame Mourjane Toumareni, et un parent qui a adopté Abdrahmane Moussa, et Monsieur Roufaï Amadou, le directeur de l'orphelinat Lina, le bon samaritain, et moi, Rekia Arimi, à la modération, à la technique, Mustapha Ayouba. Avant de nous quitter, je vous propose de suivre notre rubrique Lotti qui sensibilise en humour. Bonsoir et à demain, 17h, sur les ondes de nos radios partenaires.
Affairage, 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 affairage.
Attends, je vais appeler Mouna. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles de ma nièce préférée. Ah, allô ma chérie, ça va? Il y a quoi? Et puis je t'entends de loin comme ça. On dirait que tu es malade. Comme je ne suis pas loin de chez toi, j'arrive. Je vais même profiter pour voir ta maman. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ma belle, sois la bienvenue.
Merci beaucoup. Où est passée Mouna? Je l'ai eue au téléphone il y a quelques instants. On dirait qu'elle est malade.
Elle va bien.
C'est quoi ce hum?
Non, il n'y a rien. Tu sais, avec ton frère là, il faut de la patience, c'est tout.
Qu'est-ce qu'il a encore fait?
Plutôt, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Comment un père de famille peut négliger ses enfants à ce point? Tu vois, par exemple, Mouna, c'est une grande fille. Elle a des besoins, mais le bon monsieur s'en fout. Il ne sait pas si elle a besoin des habits, d'aller à l'école ou même d'acheter les serviettes hygiéniques pour ses menstrues. Et comme tu le sais déjà, je ne travaille pas. Donc, il veut que ma fille se fasse entretenir par des hommes dehors, n'est-ce pas? Et si elle ramène des problèmes à la maison, ton frère va encore me blâmer.
Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Va au bout de ta pensée. À part une grossesse là, quel problème elle peut ramener à la maison? Les hommes dehors ne lui donneraient rien gratuitement. Hein. Ils vont aussi demander quelque chose en retour. Pourtant, chaque fois, il nous dit que sa famille ne manque de rien, qu'il vous fait tout ce que vous voulez. Mais je vais lui parler, ma belle, ne vous inquiétez pas. C'est donc pour ça que Mouna est devenue une jeune fille triste du jour au lendemain.
Tu as tout compris. Ce qu'elle a est pire qu'une maladie.
Tu sais, pour que vos enfants deviennent des personnes sûres d'elles, ils doivent avoir l'appui de leurs parents. Les protéger dans la sécurité, leur santé, leur moralité, assurer leur éducation et permettre leur développement. Ça va même vous permettre de tisser des liens forts avec eux. Le comportement négatif des parents peut avoir des mauvaises conséquences sur les enfants. Il ne suffit pas de les nourrir, mais il convient de tout assurer aux enfants, dans la limite des moyens financiers du ménage, bien sûr. Un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement, et ce même après leur majorité.
Tout ça, là, c'est à ton frère que tu dois le dire. Moi, j'ai fait tout mon possible, wallahi.
Ton mari se trouve même où actuellement? Je vais de ce pas le trouver. J'étais venue te parler de notre Fouindila, mais ça peut attendre.
Bonne route, ma belle.
Merci. En attendant, tiens ça. Ce n'est pas une très grande somme, mais ça peut vous dépanner quand même un peu. À plus tard, ma belle.
Vraiment, merci. À plus tard.